est extrêmement cultivé, mais fait l'économie de la culture pour aller directement au noyau des choses. C'est ça qui est intéressant. Vous avez des peintures très cérébrales, très cultivées, très culturelles, des peintures qui renvoient à des références. Vous avez une salle ici où vous avez des références au Douanier Rousseau, à Uccello, ou à quelques autres grands peintres. Mais on peut ne pas les connaître, ces œuvres-là, pour les saisir ou pour les comprendre. C'est bien de faire l'économie de la culture pour aller dire des choses qui vont au-delà de la culture. Et il y a cette célébration de la nature qui me paraît essentielle et qui est une pensée chamanique. Le chaman n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité du monde dans les livres, c'est quelqu'un qui cherche la vérité du monde dans le monde à partir de son corps. C'est ce que fait Robert, il cherche la vérité du monde dans le monde à partir de son corps. Et les livres sont accessoires, c'est pas inutile, mais c'est accessoire. La culture n'est pas inutile non plus, mais elle est accessoire. L'important, c'est d'aller dans le cœur des choses. Le cœur des choses, c'est la vie, et le cœur de la vie, c'est le sexe. C'est la reproduction. Regardez cette salle consacrée aux fleurs, magnifique. Vous avez des fleurs comme des sexes, ou presque des sexes comme des fleurs. Regardez ces sexes de femmes qui sont toujours peints comme des fleurs. Il y a des iris qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. C'est la vieille histoire de la peinture de fleurs. C'est plutôt casse-gueule comme sujet, comme thématique. Là, vous avez une transfiguration par le personnage, par le style, par le tempérament, le caractère du personnage, qui vous dit voilà la vie. Et voilà la vie qui est dans la vie. C'est une peinture nietzschéenne en ce sens, c'est une peinture en permanence de la volonté de puissance. Je veux dire deux mots sur la volonté de puissance qu'on comprend toujours très mal, parce qu'elle était mal comprise, mal saisie, mal racontée chez Nietzsche. Je ne vais pas faire le pédant, mais en allemand, c'est Willensmacht, c'est-à-dire c'est du vouloir vers la puissance. Et quand on veut comprendre ce que Nietzsche raconte, il renvoie à une métaphore qui plaira à Robert, c'est la métaphore d'une liane qui s'appelle le Sipo Matador. Il y a juste ça, à un moment donné, dans les fragments posthumes, Sipo Matador. J'ai voulu savoir ce que signifiait ça, qu'il y a une autre référence dans l'œuvre de Nietzsche. C'est en fait une liane dont il nous dit qu'elle est de Java. En fait, elle n'est pas de Java. J'avais envoyé une lettre à Claude Lévi-Strauss qui m'avait gentiment répondu sur ce sujet-là. Ce sont des plantes qu'on trouve en Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud, dans les forêts brésiliennes. Et le Sipo Matador est une plante qui grimpe le long des arbres, qui s'en va chercher la canopée, c'est-à-dire le sommet de la forêt. Et quand elle obtient la canopée, elle jouit de la lumière. Et la volonté de puissance, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez vu dans la rue le bitume qui s'est ouvert, qui s'est fendu, et vous avez vu sortir un brin d'herbe ou des fleurs, eh bien vous avez vu la volonté de puissance en action. La volonté de puissance, c'est, je dis toujours, le vouloir qui veut la vie. C'est ce qui veut la vie en nous. Et il y a ça partout. Il y a ça dans les fleurs, il y a ça dans la sexualité, il y a ça dans l'acte sexuel, bien sûr, il y a ça aussi dans les guerres, il y a ça aussi dans les paysages, il y a ça aussi dans les corps, il y a ça aussi dans tout ce que Robert peint. Il peint la volonté de puissance comme un chaman qu'il est, parce qu'il l'a touché du doigt, parce qu'il vit avec cette volonté de puissance, et il la montre avec des couleurs magnifiques. C'est une fête de la vie, cette célébration de la couleur. On parlait tout à l'heure entre amis au café, en attendant de vous retrouver, de la chromothérapie, ces gens qui soignent à partir de la lumière. Et je disais à Robert que je suis né argentan, et argentan est la ville natale de Léger, et tu me disais effectivement que tu aimais la peinture de Léger. Il y avait chez Léger cette idée qu'on soigne par la peinture. Alors évidemment, on soigne, il ne s'agit pas de soigner ou de guérir, mais on modifie les rythmes du corps. Comme les chamans sont capables de modifier les rythmes du corps avec les tambours, les percussions, des rythmes percussifs qui sont très répétitifs, on peut agir sur le corps avec des couleurs. Et je pense que l'exposition de l'œuvre de Robert Combas agit sur le corps. Que quand on sort de l'exposition, c'est passer quelque chose de corporel, pas seulement de rétinien, pas seulement d'intellectuel. Vous savez que le coup d'État réussi par Duchamp, qui fait qu'effectivement, on annonce la mort de l'art, on annonce la mort de tout ce qui est rétinien, on fait la célébration de l'idée pure, et on célèbre le concept, et tout ça est extraordinaire. Mais la peinture n'est pas morte pour autant. La preuve est quand la peinture dit qu'elle est vivante, elle le dit avec Robert d'une manière magnifique, c'est la couleur, c'est la vie, c'est la vitalité, et ce sont les couleurs qui sont des vibrations. Le chromatisme, c'est d'abord un effet de physique. Il y a des ondes, il y a des corpuscules, nous ne sommes que des ondes et des corpuscules, elles sont complètement matérialistes, et cette peinture-là agit sur nous. Pas sur la rétine, elle passe par la rétine, mais elle n'agit pas sur le seul cerveau, elle agit sur la totalité du corps. Comme la musique de Bach. d'une certaine manière, parce que on y retrouve des rythmes primitifs qui nous font respirer, sentir, qui nous font battre le cœur à un rythme particulier. Quand vous écoutez du Bach, vous avez le corps qui se met au rythme de Bach. Et bien, quand vous voyez les peintures de Robert, il se passe la même chose. Et quand vous avez des scènes de sexualité, quand vous avez des scènes de guerre, quand vous avez des natures mortes qui sont plutôt des natures vivantes, et bien, il se passe aussi des choses, des modifications du rythme corporel quand on les regarde. Je ne suis pas bien sûr que beaucoup de peintres aujourd'hui puissent dire qu'ils peuvent produire ce genre d'effet. Quand je disais tout à l'heure que Robert ne peut pas être un faiseur parce qu'il est chaman et que sa peinture est chamanique et qu'on ne ment pas, eh bien, peu de gens peuvent dire ça. Parce que peu de gens, quand on les voit, quand on voit leurs expositions, leurs rétrospectives, peu de gens produisent cet effet-là, me semble-t-il. Pour ceux qui seront allés voir, vous aurez vu, pour ceux qui vont voir, vous verrez, et pour ceux qui ont déjà vu, vous pourrez retourner voir. Je pense que, on m'a dit d'ailleurs, que beaucoup revenaient voir, parce que de fait, et on se disait ça tout à l'heure avec Geneviève, une peinture qu'on peut rapprocher de celle de Robert, c'est Jérôme Bosch. Pour plein de choses, pour plein de raisons. Mais d'abord, c'est un peintre que j'adore aussi, et c'est une peinture qu'on ne peut jamais totalement photographier. Vous n'en avez jamais fini avec une toile de Bosch, vous n'en avez jamais fini avec une toile de Robert. Il y a 500 peintures dans une peinture de Bosch, il y a 500 peintures dans une peinture de Robert. Et avec ces 500 peintures, vous avez des modalités d'agencement qui sont considérables. Je parle aux statisticiens ou aux spécialistes des probabilités, qui vous diront qu'avec toutes ces possibilités-là, vous avez des combinatoire incroyable, on n'en finit jamais avec une œuvre de Robert. On ne peut même jamais mémoriser complètement. C'est-à-dire, on peut mémoriser des morceaux, des fragments, mais il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et rien n'échappe à Robert. C'est-à-dire que tout à l'heure, devant une belle toile qui représente l'Arche de Noé, c'est l'Arche de Noé avec les clous, hein, avec les clous sur le cadre, il y a des cadres un petit peu partout. Et quand vous voyez Robert qui est toujours habité par l'énergie du monde, ou qui est toujours le support de la volonté de puissance, vous avez l'impression qu'il ne voit rien, il voit tout. Il manquait un clou. Un clou, hein, je ne sais pas combien, là, sur l'ensemble de l'entourage. Il y a falloir que je remplace ce clou. Il y avait juste le petit trou du clou qui manquait. Il avait vu le trou du clou qui manquait, parce qu'il voit tout. Voilà. Et il y a des cerveaux limités, comme le mien pour le coup, je vois l'œuvre. Je vois l'œuvre, je ne l'épuise pas. Et il y a Robert qui, avec ces deux anecdotes, la première anecdote rapportée par Geneviève, c'est-à-dire Robert peint le nez sur la toile blanche, sans dessin, et puis il développe la totalité. Et puis cette idée que tu disais 600 œuvres, hein, dans à peu près 600 œuvres dans la rétrospective, un clou qui manque, l'artiste le voit. Je pense que effectivement, nous sommes inégaux. Et vivre cette inégalité-là, parce qu'elle fait que vous avez des gens qui voient le monde en voyant, pour utiliser l'expression d'Arthur Rimbaud. Moi, j'y crois. Je crois vraiment, après avoir fait pas complètement le tour de l'histoire de la philosophie, mais la connaître un peu mieux, que les philosophes ont approché le monde, qu'ils l'ont saisi plus ou moins bien, plus ou moins véritablement, avec plus ou moins de bonheur, que certains ont construit de beaux édifices, mais qu'ils n'ont fait que l'approcher. Je pense que Robert l'a mangé, l'a intégré, comme on mange des champignons hallucinogènes, et qu'il le régurgite morceau par morceau, qu'il le raconte dans des toiles, qu'il le met dans des œuvres, qu'il le propose, ce monde, dans des formules multiples, des sculptures, qui sont des détournements de choses qui peuvent exister parfois, qui sont des morceaux d'arbres taillés, des troncs, et puis à partir des troncs, des choses rigolotes qui sont agencées comme ça, et puis parfois, ces objets qui sont uniques, il faut des milliers d'années des centaines d'années pour faire des arbres comme ça, eh bien, ces œuvres-là, elles sont dupliquées, elles sont en bronze, mais vous ne le saurez pas. Il faut que Robert vous dise, il y en a trois ici, celle-ci, elle est originale, c'est du bois, mais les autres, c'est la même chose, mais c'est du bronze. Et même chose avec des pinceaux. Vous aurez vu ces crucifix extraordinaires, une passion magnifique que de réussir ces choses-là. Vous avez des pinceaux et vous utilisez des pinceaux en quantité, vous les jetez. Vous avez des tubes, vous les utilisez en quantité, quand ils sont vides, vous les jetez. Et puis vous comprenez, coup de génie. Après, vous vous dites, mais bon sang, c'est bien sûr, comment n'y a-t-on jamais pensé ? Eh oui, sauf que c'est Robert qui y pense. et il prend deux pinceaux, il les agence dans une forme de crucifix, il ajoute un tube et ça fait le corps du Christ, et d'un seul coup vous dites évidemment, c'est la passion du peintre. La passion du Christ, c'est la passion du peintre. C'est la souffrance d'emparer pour le pinceau, c'est la couleur qui est vidée, c'est le tube qui a exprimé sa quintessence, sa couleur, ses chromatismes, et ça produit cette multiplication de passions. Dans une toile, devant une toile, je suis passé, il y avait une crucifixion, je me suis dit, mais je serai Benoît XVI, parce que Dieu me plaise, j'achèterai cette œuvre pour le Vatican. Il y a plein d'œuvres qui sont des célébrations du christianisme primitif, c'est-à-dire du vrai corps du Christ, qui sont des œuvres extraordinaires, même pour un théologien. Pas besoin d'être chaman et tenant du panthéisme pour aimer cette peinture. Elle est aussi, je vous disais tout à l'heure, éminemment culturelle, mais avec la discrétion de Robert. Il ne s'agit pas d'en faire des tonnes en disant qu'on sait ou qu'on connaît, mais vous avez des œuvres qui accumulent, qui cristallisent des références culturelles considérables. Parfois, vous avez Scarbo, hein, ça peut être la toile qui s'appelle Scarbo, la légende que Debussy, que Ravel met en musique, eh bien vous avez toute l'histoire qui est racontée là. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez voir la peinture. Si vous connaissez l'histoire, vous voyez mieux la peinture. Mais parfois, il y a des informations qui sont données par l'artiste. Quand on a la chance de pouvoir visiter l'exposition avec lui, on découvre. Et il y a plein d'informations qui sont là. Je voudrais pas être long pour laisser la parole à Robert et surtout faire de telle sorte que nous puissions avoir un échange, mais il m'a semblé que d'abord il faut remercier le directeur du musée de cette magnifique initiative. Robert est un grand peintre qui n'a pas le talent pour l'entre-gens, c'est-à-dire qu'il ne sait pas se vendre, et c'est tant mieux. Si vraiment il était entre les mains de galeristes new-yorkais et ont décidé que c'est lui le grand peintre, il serait le grand peintre, on ajouterait des tonnes de zéros à ces chiffres de vente. Je pense que la France ne s'aime pas, que la France a du talent pour détester ses talents, et que quand il s'agit de célébrer des peintres outre-Atlantique, on est dithyrambique, ou des peintres allemands, quand il s'agit de la France, on est dithyrambique aussi. On a un très grand peintre, vivant, contemporain, jeune, en France. On devrait pouvoir le vendre sur la planète entière, le montrer sur la planète entière. On a vu le génie de cette exposition parce que vous avez une chronologie, il y a des œuvres que je connaissais pour les avoir vues sur des catalogues, mais que je n'avais jamais vues dans leur matérialité, la première salle, dès qu'on entre. Et vous avez un dessin qu'on ne peut pas imaginer comme étant de Robert Combas dans les 5 ans qui suivent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'explosion entre le jeune homme originaire d'un milieu modeste qui dessine, qui peint. Il y a déjà cette furie-là qui, sur des cartons, sur des contreplaqués, sur des bouts d'isorelle, jette une peinture naïve qui va d'un seul coup éclore, comme une chenille devient papillon, qui va d'un seul coup éclore très vite. On est étonné de voir les dates qui séparent les premières œuvres des toiles dont on peut dire ça c'est du Combas, vous savez, c'est le grand art. Vous arrivez quelque part et 20 mètres plus loin, vous avez une peinture, vous ne savez pas qui c'est, mais vous n'avez pas vu la signature, mais vous savez qui c'est Robert Combas. Eh bien, ça se voit très vite, ça surgit très vite, et on voit au fur et à mesure du temps des variations sur un même thème. Il y a un même monde, il y a un même thème, ce fameux dessin, ce trait noir, ces couleurs, ces agencements, cette multiplicité d'agencements, cette façon d'être Jérôme Bosch en plein 20e et 21e siècle, cette citation discrète, pour ceux qui savent la comprendre, mais cette possibilité d'être lu sans citation aussi, cette passion pour la vie, jusqu'à la mort. L'érotisme, c'est l'approbation de la vie jusque dans la mort, disait Georges Bataille. C'est pas la définition de l'érotisme, mais je pense que ça peut être celle de Robert quand on voit son travail. On a rencontré une ou deux personnes tout à l'heure qui nous ont parlé et qui ont parlé effectivement de la guerre, de la souffrance, de la douleur, du sang versé, des batailles, de toutes ces choses-là. Effectivement, on trouve ça dans cette peinture, mais en même temps, toutes les vraies peintures le disent. Depuis Lascaux, je dirais Eros, Cosmos et Thanatos, on n'en sort pas. Pulsion de vie, Eros, pulsion de mort, Thanatos, et puis relation de tout ça dans le cosmos, il y a tout ça de raconter dans ces peintures-là. Et puis c'est dit parfois plus discrètement, il y a ma préférée, parce que mon père était ouvrier agricole et parce que Pauvre Martin, la chanson de Georges Brassens, ça a permis à Robert de faire une toile qui moi me touche tout particulièrement. Elle dit beaucoup, cette œuvre-là, de la capacité qu'a Robert de saisir le cosmos, d'être une espèce de sismographe du cosmos. Voyez ou revoyez ou retournez voir cette œuvre et vous verrez qu'il y a un mouvement du soleil dans le ciel. Que ce mouvement, c'est très exactement le mouvement qui va du levant au couchant et que c'est le mouvement d'une vie avec un zénith. Que c'est la vérité de la vie d'un homme, mais que c'est la vérité de tout ce qui est vivant. Le propre du vivant, c'est ça. C'est de naître, c'est de croître, c'est de vivre, c'est de connaître un moment d'acmé, puis de décadence, et puis de dégénérescence. On disparaît, on laisse la place, et quelqu'un d'autre reprend la place. Je pense que l'œuvre de Robert, elle s'inscrit dès à présent dans l'histoire de la peinture, depuis Lascaux jusqu'à plus tard, vous verrez pour le dernier des bords de ces vivants que vous êtes ce soir. Vous le saurez, vous verrez, effectivement, je pense que cette exposition, elle est bouleversante, moi elle m'a bouleversé. J'ai la chance de connaître Robert comme ami, j'ai la chance de connaître l'atelier, j'ai la chance de voir toutes ces choses-là, mais d'un seul coup, dans ces volumes-là, dans ce lieu-là, le rassemblement, le travail que vous avez fait tous ensemble dans le musée, le travail d'accrochage, de scénographie, de mise en place, de thématique aussi, de toutes ces salles-là, les choix des toiles aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelques toiles qui sont des toiles intimes, privées, qu'on voit quand on a la chance d'être dans la maison et dans l'atelier, dont on sait qu'elles sont nécessaires, parce que ce sont comme des chevilles, si vous voulez, dans une charpente. Ce sont des chevilles qui permettent de construire un édifice, qui ne sont pas montrées là. C'est-à-dire que là, vous avez, là, ce sont des œuvres de travail, on pourrait dire. Et là, il n'y a que des œuvres d'aboutissement. Pas un moment faible. Pas un moment faible dans cette exposition où pas une œuvre ne se trouve, dont on aurait pu dire, c'est une œuvre de travail qui a probablement été nécessaire pour rendre possible telle autre œuvre. Elle aurait pu ne pas être là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici. Donc le choix a été magnifique. Je pense que Geneviève y a travaillé aussi pour faire de telle sorte que vous ayez vraiment la quintessence. 600 œuvres, c'est pas beaucoup dans la production de Robert. C'est pourtant beaucoup dans la production de l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui. Je pense que Lyon a de la chance d'avoir ce musée, ce directeur, cette direction, cette équipe qui a pris l'initiative de Robert, qui est accessoirement originaire de Lyon, je crois. Tu es né là par accident du travail, comme tu dis, puisque tes parents sont arrivés là à cause du travail, tu es né ici, mais tu es plutôt de 7. Il se fait que je trouve bien qu'on puisse aujourd'hui voir l'œuvre complète, comme on dit l'œuvre complète dans la Pléiade, ou l'œuvre complète dans des belles collections où on rassemble l'œuvre de quelqu'un, même de son vivant, de voir l'œuvre complète de Robert Combas, et je suis très heureux d'avoir fait le voyage pour être avec vous ce soir en ta compagnie. Voilà. Je vais laisser Robert peut-être poser, dire deux ou trois choses, et puis après on échangera avec vous, si vous voulez bien. C'est à toi.
Ouais, mais moi j'ai plus rien à dire, parce que... si moi je suis un peintre, en tout cas, qui peint beaucoup, Michel André, il parle beaucoup. Non, mais je l'attendais depuis longtemps, en réalité. En réalité, j'attendais quelqu'un qui puisse parler de ma peinture, je rêvais de ça. Et c'est pour ça que ce soir je suis heureux, parce que j'attendais quelqu'un qui parle de ma peinture comme ça. Et j'ai rien à dire de plus, puisqu'il a tout dit. Pas tout dit, mais qu'est-ce que je peux dire de plus? En même temps, on est toujours gêné, on est toujours gêné, on me fait semblant ou pas, enfin, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas. Je travaille, voilà, c'est tout. Je suis un homme normal. Et ça, c'est très important. Et donc, j'ai été obligé de concentrer mon énergie et de laisser tomber tout le reste. Bon, en fait, de compte, dans la peinture, je le re-rentre. Finalement, tout ce que j'ai laissé tomber, je le récupère de la peinture. Finalement. Mais bon, l'état moyen, quand même, c'est déjà pas mal. Mais c'est une histoire, comme tu disais, le travail, le paysan dont tu parles, et le tableau du paysan. C'est une histoire de travail. En vérité, n'importe où qu'on soit, n'importe qui qu'on représente, où qu'on est représenté, où qu'on croit représenter quelque chose, finalement, si on peut avoir la chance, je ne sais pas, c'est pas une chance en vérité, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai qui sont une chance ce que je fais. Mais non, c'est du travail. Alors, à un moment donné, je suis arrivé à trouver le créneau et donc et maintenant je travaille. Mais bon, en même temps, je ne sais pas d'où ça vient, tout ça. Ça vient du cerveau, je ne sais rien. C'est incroyable, ça. Parce qu'en plus, on croit que je suis un génie, des fois. Ça, je ne crois pas du tout. Je suis sûr, mais d'ailleurs, mais je ne sais pas, c'est une histoire de cerveau. Il faudra que... Je pense qu'on va expliquer tout ça bientôt, mais je pense que je serai mort. Je veux dire tout ça, pas que mon cerveau à moi, mais comment ça se passe là-dedans, pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir le montrer comme ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi-même, je suis étonné. Et bon, finalement, il fallait un type comme toi pour pouvoir expliquer des choses, parce que Michel Onfray, je ne l'ai pas ici à l'époque, mais il chante quand il parle. Et en plus, on le comprend. Alors ça, c'est autrefois, j'ai vu quelqu'un à la télé, une actrice, dans une émission. Oui. Bon, elle disait, comme tout le monde, comme des copains à moi qui m'avaient déjà parlé de Michel Onfray, et qui disaient, oui, c'est vrai, on le comprend. Donc, on le comprend par rapport aux autres. Alors c'est pas mal, hein. Non, mais c'est très important. Par rapport à d'autres philosophes, on le comprend. Et moi, je le comprends aussi, et donc je suis heureux qu'il ait parlé de ma peinture comme ça, parce que j'attendais, comme je le disais, quelqu'un qui puisse en parler. La mienne, comme de d'autres, hein, j'ai envie j'espère qu'il pourra parler de d'autres manières, de d'autres artistes, sur d'autres artistes. Il l'a déjà fait d'ailleurs. En tout cas, la mienne, en tout cas, j'ai été satisfait. Voilà. J'espère que... Je ne sais pas quoi dire de plus, parce que... Je suis gêné, quand même. Parce que je suis vivant, encore. Et là, j'ai peur, parce que... Il ne faut pas trop mettre les ailes sur les pilestos. Je casse. Mais enfin, bon. Parce que j'ai peur de mourir. Parce que j'ai toujours pensé que quand on allait trop haut, quand on va trop haut, même qu'on soit jeune ou vieux, il ne faut pas trop faire. Par exemple, les chefs-d'œuvre. Il ne vaut mieux pas le savoir, parce que c'est très dangereux, les chefs-d'œuvre. Parce que quand on fait trop de chefs-d'œuvre, on est mort. On va mourir. On n'a plus rien à faire. Voilà, moi maintenant je m'arrête de parler.
Pino, quels sont tes chefs-d'œuvre?
Ah ben, je sais pas justement. Ouais, mais je dirais que j'ai des tableaux préférés, mais il y a pas mal de tableaux qui sont pas dans l'exposition, que j'aurais bien aimé qu'ils y soient. Parce qu'en vérité, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas que j'ai fait des tableaux. Oui, j'en ai fait. Il y en a beaucoup de mauvais aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de mauvais. Mais il y a encore beaucoup de bons. Enfin, pour moi, des bons. Des choses qui m'apportent quelque chose, qui pourraient apporter, il me semble, quelque chose à la manière dont on vit aujourd'hui. Et avec la liberté qu'on a de pouvoir les montrer. Enfin, montrer, c'est une manière de montrer des tableaux. Dans le sens que. Je dis toujours, moi, s'il y avait la guerre de 40 et que les nazis seraient là, je pense que je serais un des premiers à partir. Peut-être que j'exagère, mais ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a traité autrefois d'artiste populiste, et je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que non. Il y a toujours une connotation péjorative, moi j'ai lu dans un article, du mot populiste. Mais c'est vrai que je suis un artiste quand même qui fait l'unanimité, surtout dans cette exposition. Donc il y a un côté populaire, automatiquement. Donc, je suis content, et en même temps, c'est un peu gênant, parce que dans l'art contemporain, je ne dis pas qu'on est mal vu, mais c'est difficile pour les gens d'accepter qu'on puisse plaire à des gens de 7 à 77. Ça va me rapprocher de la BD, ça. Mais, voilà. Et donc, les chefs-d'œuvre, disons que je n'ai pas de chefs-d'œuvre, mais j'ai des tableaux préférés. C'est des tableaux comme le tableau qui représente Geneviève, en bleu. Il est dans l'exposition, avec des coulures dessus. C'est des tableaux de toutes les femmes qui dans la galerie des femmes, de toute façon, quelque part, parce que c'est des femmes que j'ai connues, mais il y en a certaines qui n'existent pas. C'est celle qui a trois espèces de gros oiseaux derrière, mais les autres ont existé. Et donc après, il y a des souvenirs, donc c'est une préférence. Mais les autres tableaux, il y a le tableau de l'autiste, avait la forêt de fleurs, il y a le tableau de Brassens, il n'y a pas que celui-là, mais il y en a un autre. Il y en a d'autres de l'expo de Brassens, mais il y a celui qui est à l'exposition, évidemment. Le tableau sur le creuse de la terre, le creuse de la misère. Il y a le tableau, c'est les Jacques de Féminine, ce tableau. C'est des tableaux plus fétiches plutôt. Hein, parce que, et puis il y a d'autres tableaux qui sont plus délirants, comme je ne m'en rappelle plus les noms. Des tableaux en plein de choses dedans. Je n'ai pas le livre là, parce qu'après je ne me rappelle plus, parce que j'ai tellement écrit de trucs que je ne me rappelle plus de tout, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. C'est pour ça que quand je chante les chansons, je suis obligé d'avoir les textes, parce que je n'arrive pas. J'ai pas de tête. J'arrive à écrire des choses, mais après je recommence à plus avoir de vocabulaire. C'est bizarre. D'un seul coup, je peux être, on va dire que c'est prétentieux. Je peux être brillant, je peux être le contraire. En gros, je brille des fois, mais des fois, des fois c'est le contraire. Je suis un peu mat. Et qu'est-ce qu'il y a comme tableau? Il y en a plein de tableaux. Quand même. Il y a beaucoup de tableaux que j'aime. Les chefs-d'œuvre, je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui vont le dire plus tard. Peut-être. De toute façon, vu dans la masse, on peut toujours faire des chefs-d'œuvre. J'espère que j'en ai fait deux ou trois quand même. En tout cas, il y a des gens qui le disent, d'autres qui non. Il y a déjà de plaire, de savoir qu'on peut communiquer, parce que moi, ma peinture, c'est la communication, évidemment. C'est la communication, parce que j'ai du mal à communiquer. Alors des fois, les gens ils rigolent quand je dis ça. La vérité, si. Si en vérité j'ai le problème de communication, et donc j'essaie de communiquer de la manière. Et la meilleure manière que j'ai de communiquer, c'est de faire de la peinture. Et des fois de la musique un peu. Mais c'est un essai qui est plus compliqué. Mais ce qui me plaît dans la musique aussi, c'est de pouvoir travailler avec des gens. Parce que des fois, on a envie de travailler avec des gens, de travailler. Et ça, c'était ma déception. Que je dis de travailler seul à la peinture aussi, c'est parce que. Parce que j'arrivais pas à travailler avec des gens. Des fois, j'ai envie de travailler avec des gens. Voilà.
Tu pourrais nous parler de la première salle, c'est-à-dire les œuvres de jeunesse, les Mickey, ou même la deuxième salle aussi, avec les peintures que tu fais quand tu arrives à Paris.
Même avant, comme ça. Mais c'est des peintures qui sont. C'est une prise de position en connaissant l'art contemporain qui m'a permis de. Et aussi l'art brut. Et via l'art naïf. Et donc j'ai fait un condensé de tout ça, parce que c'était aussi le trait. Parce que si par exemple on demande à Picasso ou à Dubuffet je sais pas moi, les artistes d'aujourd'hui aussi, à Garousse et à moi, de faire un homme en quelques secondes, il va faire un rond, deux yeux, et ça va se ressembler en gros. Ça va être la même tête, donc un truc rapide comme ça, brut. Il n'y aura pas le temps de faire des ombres ou de faire quelque chose de ressemblant. Donc, quelque part, on se rassemble tous par rapport à un trait rapide et simple. Après, on sophistique, évidemment, par rapport à la personnalité qu'on a, et puis aussi par rapport à tout ce qui a été appris dans la peinture. C'est pareil pour la littérature, d'ailleurs. Alors, quelque part, il y a cette histoire de je commence à réfléchir que maintenant à ça, du mal fait, bien fait, du mal fait, mal fait. En gros, j'ai essayé de faire du mal fait, bien fait. Bon, alors, donc le problème, parce qu'évidemment, quand je fais des Mickey complètement déformés, on dirait que c'est. Je suis pas loin d'un dessin presque d'un inadapté mental, quelque part. D'ailleurs, des fois, dans ma peinture, je peins, il me semble que des fois, il y a des phases. Il y a des phases, donc à des moments, il me semble que je peins comme une adapté mentale, puis après, je peins dans la même peinture, il peut y avoir des façons presque intellectuelles de penser cette peinture, et il y a des moments totalement dégringués, quoi. Et donc, dans cette phase-là, j'avais plein de choses que je faisais, il fallait que je synthétise. Et donc, je synthétisais parce que j'ai trouvé des choses qui m'ont fait penser que j'étais pas le seul. Mais en même temps, je voulais faire quelque chose de nouveau, parce que le nouveau, ça comptait vraiment pour moi. Et aussi, j'ai eu des influences, il me semble, même d'artistes conceptuels, un peu comme Wojtanski, je crois. Et donc, et de l'autre côté parce qu'il faisait des trucs, il faisait des objets, le maniac, par exemple des avions faits avec de la pâte à papier, des sucres qui sculptaient ou des choses faites avec des lames de rasoir, un peu comme des maniaques font avec du bois et des lames de rasoir. Donc c'était assez proche de l'art russe, d'une autre manière, d'une manière plus intellectuelle. Et donc, tout ça, j'ai essayé de le comprendre à ma manière. En gros, j'ai compris le concept de la même manière, ce n'était pas la même manière que les autres. Et donc ça m'a donné l'idée d'avoir une idée de quelque chose, de faire quelque chose avec une idée quand même, pas quelque chose de complètement jeté comme ça. Et le travail était jeté, donc ce mal fait, bien fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si c'était du mal fait, ça serait mal fait, ça serait nul. Moi, c'est du mal fait, bien fait. Alors donc, des Mickey, qui ne s'appelait pas Mickey, mais qui disaient des choses qui étaient assez simples, sur des... Et donc, ils se rapprochaient des fois, des moments même de la peinture de ce qu'on appelait après les coiffeurs africains, qui n'étaient pas que des coiffeurs, des publicistes africains, des peintres qui faisaient des peintures publicitaires presque, mais dans des pays en voie de développement, si on veut dire. Et puis, donc, dans ces tableaux, il y avait cette part-là, puis il y avait une autre part qui était très proche de l'art brut, quand même, encore une fois, mais d'une autre manière encore, des batailles. Parce que les batailles, ça aurait pu être peintre de bataille pas toute ma vie. Ça aurait pu être peintre. Souvent, les artistes contemporains prennent un sujet bien précis et puis l'amènent presque jusqu'à la fin de leur vie. Bon. Dans le sens, ça aurait pu être peintre qui dit bataille, conflit, parce que le conflit, la bataille, donc à deux, tout seul, à plusieurs, les guerres, tout ça, j'aurais pu faire que ça. Donc pendant longtemps, j'ai fait des batailles, mais je ne faisais pas d'exposition de bataille. Et puis je n'avais pas envie de faire que ça parce que je m'emmerdais, mais quand même. Donc je m'emmerde vite, donc même faisant de la peinture. Donc il fallait que je fasse des choses figuratives parce que l'abstraction m'emmerdait un peu. Non, et pas l'abstraction des autres, la mienne. À force de faire des trucs. Donc je faisais des choses très simples, un peu dans le sens naïf des choses. Et en même temps, et tu l'as dit mieux que moi, en gros j'essayais de capter l'époque à ma manière et avec le peu de moyens et donc, que j'avais intellectuels. Et donc ce peu de moyens, j'ai décidé un jour de faire un pacte. Ce pacte, ça veut dire qu'en gros, j'ai choisi de faire une chose et de laisser tout le reste aux autres. Donc, comme je le dis souvent, c'est la vérité, je ne sais pas faire la cuisine, je ne savais rien faire. Je ne savais pas faire le lit, je ne savais pas, j'ai jamais su conduire, j'ai jamais su vraiment écrire. En réalité, j'ai pris l'écriture après comme le... je me suis décomplexé. Et encore aujourd'hui, j'essaie de me décomplexer. Quand je chante aujourd'hui, c'est parce que je me décomplexe, parce que de toutes ces choses qu'on n'arrive pas à sortir. Et tout le temps, j'ai essayé, à des moments, de trouver le créneau, parce qu'on ne trouve pas le créneau tout le temps. Et donc, à des moments, de trouver le créneau pour pouvoir ressortir ces choses-là. Parce que depuis que je suis presque né, mes parents, ils me destinaient à être un artiste. Mes parents, moi aussi. Alors ça, c'est une vision laïque qu'il y a eu. Bon, ça a un rapport avec les peintures du début aussi. Hein. Puisque ils ont jamais aimé j'ai jamais été un petit génie de la peinture. On n'a jamais eu des natures mortes. Du petit génie, non. En vérité, je faisais beaucoup de dessins, mais c'était pas... Mais bizarrement, mes parents qui se battaient pour une culture, quand même, parce que... Et ça, c'était pas tous les communistes, quand on dit communistes, mais fait, c'était communistes français d'une certaine époque, attention. Hein. Et donc, il y avait des qualités aussi. Il n'y avait pas que des qualités, ouais, de là. Mais par contre, pour ça, mon père s'est battu pour la culture, mais tous les communistes n'étaient pas pour la culture. Hein. Attention. Et donc, ils se battaient pour ça. Je pense que c'était un truc qu'ils avaient laissé tomber, que mes parents avaient laissé tomber, et que, pas artistique, mais. La culture peut être importante, parce que je me rappelle aller à 4 ans au théâtre de la mer, c'est un théâtre qui donne sur la mer, à Sète, qui est un ancien fort romain, et aller voir Jean Villa, Jules César. Mais par contre, quelques années après, ils ont laissé tomber ça. Et mais par contre, ils ont toujours aidé. Mon père s'est toujours battu pour une culture que pour les autres aussi. Et ça, on peut leur rendre aujourd'hui un hommage vraiment très important. Et donc, voilà, en tout cas, ils ont fait un être comme moi qui est pratiquement monstrueux. Parce que je me rappelle, une amie à moi disait que pour rigoler quand même, mais qu'on était une famille de. Comme les pigeons. Comme maintenant, il y a un jeune frère qui a monté autiste, un autre qui a opéré trois fois de quitte au cerveau, moi qui prenais de la drogue, qu'il y avait encore un autre qui était gros. Je vois, si on n'est pas dégénéré. Voilà, on est comme les pigeons, on n'est pas mieux dégénéré. Moi, c'est tout. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais on n'était pas loin. Mais c'est la preuve, en tout cas, que même une famille de dégénérés, on peut être témoin de son talent. Alors, moi j'ai toujours aimé le RTF, c'est moi de son talent, je vous ai dit le RTF.
J'avais quand même quelques questions à te poser sur le rôle du mot dans ta peinture, parce que c'est une peinture très bavarde avec les mots aussi. Oui. Je viens de l'idée qu'une peinture est faite uniquement avec une lettre d'amour, ça fait le corps même de la toile. Il y a des bulles de BD ou des phylactères, enfin des petits mots, des petites choses dites. Et puis il y a des cartels dans lesquels il y a des poèmes. Oui. Ce sont des poèmes. Tu peux nous expliquer quel rôle tiennent les mots dans cette aventure?
Au début, c'était... Je m'ennuyais, j'avais une image de la poésie. Au début, j'ai voulu me faire plaisir et c'était paillard. Dans les années 80, les textes des tableaux sont un peu paillard, très, très humoristique, un peu comme... Et dans les années 90, ça commence à se sophistiquer. Les textes, dans les années 80, je ne me relisais pas. Évidemment, je faisais esprit et pas esprit, les fautes d'orthographe, mais en même temps, je ne me relisais pas. Puis je me suis aperçu qu'il y avait un rythme, qu'il y avait une ponctuation, qu'il fallait un jour quand même que je me mette un peu au travail. Donc, j'ai commencé à faire de la ponctuation des textes. Et dans les années 90, j'ai commencé à vouloir faire de ces tableaux au premier degré, parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin du premier degré. Et puis, bon, il y a un truc qui m'a toujours... Et puis là, j'ai commencé à vouloir faire de la poésie sérieuse. Sérieuse dans le sens de dire des choses, mais c'est plus difficile, parce que pour étaler des choses humoristiques, tout ça, j'étais champion, parce qu'on est d'une ville un peu crue, et où il y a une espèce de création verbale qui, la ville d'où je viens, en dehors de Lyon évidemment, Sète, donc c'est une ville qui a été créée par des Français mais très proches de l'Espagne, après, et de l'autre côté, au début du siècle dernier, par les Italiens qui sont arrivés de Calabre, et qui sont maintenant les gens qui sont les notables, sont plutôt des pêcheurs, pas trop pêcheurs, des gens comme ça, sont des gens de plutôt italienisants, avec des noms italiens. Quoi. Donc tout cet italien et du patois, et puis le nord de l'Hérault, un mélange de patois, d'italien, quelques mots simplement, ça fait quelque chose de très chantant et de très cru, mais en tout cas de très inventif dans le peuple, on va dire, dans le peuple des gens. Quoi. C'est pas un truc intellectuel. Donc il y a une invention pour ça, c'est assez chantant, c'est assez cru, tout ça. Et c'est, voilà. Et donc moi, j'ai pas voulu repomper ça, je fais partie de ça, donc c'est assez facile pour moi. Donc ça convient à la couleur, tout ça, de mes tableaux. Mais par contre, après, il a fallu quand même que je... Et donc, à partir du début de mai, j'ai commencé, et la dernière exposition que j'ai fait, parce que ça fait un an et demi, ça va faire deux ans bientôt, qu'il est arrivé une espèce d'intensité dans ma vie que j'avais perdue. Ça faisait 12 ans, à peu près, je sais pas, plus de 10 ans que j'étais bouffi. J'ai pesé jusqu'à 84 kilos. Moi qui étais, en vérité, j'ai toujours été une personne assez mince, tout ça. Et je suis revenu à mon poids par des histoires que je vais pas continuer d'oublier, mais avec une intensité énorme, il a fallu que j'éponge grâce au fait que je crée. C'est grâce à la création que j'ai pu le projet. Et j'ai pu une grande exposition que je voulais habiter. J'ai eu des preuves pour certaines personnes, évidemment, qu'elle était qu'elle l'était. Et puis après, c'était il y a à peu près un an et demi. Et puis après, donc, j'ai commencé à avoir une méthode d'écriture que je n'emploie pas maintenant et que je vais réemployer, j'espère, bientôt. Mais ça, ça fait partie aussi de ma manière de travailler qui est un peu complexe parce que moi, si je peux quand même travailler que si je suis bien. Je pense qu'on peut être comme Pascal, on pouvait travailler quand il était mal. Mais moi, quand je suis mal, je peux travailler sur le mal, sur mon mal. Je ne peux pas travailler quand je suis mal. Pour le moment, en tout cas. Donc, là, ça a été très difficile parce qu'il y a eu depuis un an et demi, il y avait une tension à un moment donné tellement énorme qu'il a fallu que je croyais que j'allais mourir tellement que. Donc, ça a été bougé par des énormes peintures, je ne sais pas, en tout cas, une création. Et à un moment donné, j'avais encore toujours des choses dans mon corps, tout ça, justement, pour parler du corps. Et il fallait que je sorte des trucs et tout. C'est là que m'est venu l'idée. Ça faisait longtemps que je faisais de la musique chez moi. Je l'avais fait quand j'étais plus jeune, mais de la musique à caractère Europe, assez binaire aussi. Et puis là, il a fallu que je sophistique les choses. Et j'ai décidé de faire un morceau. Et ce morceau, je l'ai rencontré dans le toi à l'exposition. Je lui demandais de faire un morceau qui était sa parole. Et puis après ce morceau, c'était l'ambiance. Un morceau qui est très triste. Et avec des violons, mais tout ça, mais c'est des faux violons, évidemment. Mais j'espère qu'un jour, j'y pense parce que j'ai raconté le conservatoire. J'espère qu'un jour, on va pouvoir les faire au violon, ces morceaux. Parce que c'est un morceau. Et donc, j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à. Je pense que ça ressemblait à la musique d'un compositeur qui s'appelle Georges Delerue, qui m'avait marqué, qui a été le compositeur du Mépris de Godard, et qui a fait des morceaux qui étaient très mélodiques, mais très tristes et tout ça. Donc, parce que c'était une époque assez intense, et c'est vrai que je suis parti un peu vers là, et puis j'ai continué les morceaux avec cet ami, et donc on a fait des morceaux, et ces morceaux ils ont tous. Puis on a créé une identité, un monstre de création. Puis depuis un an et demi, on ne s'est pas arrêté. C'était très intense jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est trois, quatre, peut-être musiciens. Mais en tout cas, ça s'est passé nouveau dans la forme de quatre de groupe entier. Mais avant, on était tous à deux pendant au moins six mois, presque huit. Et donc, on a créé des choses. Bon, évidemment, j'ai fait des paroles et après, on faisait la musique ensemble. D'une certaine manière. Et donc, on a créé quelque chose qui est la suite, qui a ensemble, ça fait partie du truc. Et de toute façon, c'était important. Je savais qu'un jour je ferais ça. J'avais profité sur l'occasion, parce que c'est comme une alchimie. À un moment donné, les choses s'imbriquent. On dirait de la magie. Des fois, on se demande si Dieu n'existe pas. Mais quand même, tu ne crois pas trop. Mais avec, je pense qu'il y a une perte d'énergie. Non, attendez, je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Je dis qu'il y a une perte d'énergie qui fait que pour. Les choses s'imbriquent et on dirait que c'est bien fait. En fait, il faut quand même se démerder parce qu'on se fait pas tout seul. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Et c'est assez fascinant quand même. Et on a pas pris la gueule aussi, parce qu'il faut plus l'addition. C'est pour ça que je me demande si Dieu ne disait pas, parce que Dieu en général ne fait plus l'addition. Très méchant. Et donc, il peut tuer les enfants. Et puis, non, c'est vrai. Hein. Et donc, même des vieillards. Il est très dur, Dieu. Non, Dieu. Et alors, donc, pour en finir avec tout ça, bon, en tout cas, j'ai sophistiqué la manière de travailler les textes, et là, je me suis pris au sérieux, j'essaie de faire des textes sur l'amour, j'essaie de faire des textes sensibles à ce point-là, et bon, je ne pense pas que... Il me semble que j'en ai fait certains qui sont peut-être assez intéressants, avec la musique... qui est différente, qui est sans arrêt différente, et qui pousse d'ailleurs presque à un esprit chamanique, pour certains morceaux évidemment, parce qu'au début c'était chansons, puis après il y avait déjà quelques morceaux qui sentaient la trance, c'était un mot à la mode, je n'aime pas trop l'employer, parce que disait le mot à la mode, c'est un merde, parce que le temps, tu te trances à toutes les sauces. Mais autrement, ça, c'est pas mal, c'est un peu des improvisations. On part vers là, et puis aussi une musique de communication avec l'Occident et l'Orient. Je crois que c'est ça. Et donc ce mélange-là, on finit comme ça. De dépasser par la mémoire. Moi, je crois qu'il y a la mémoire, il y a une mémoire, alors je ne sais pas comment elle est, mais elle s'imbrique dans ma tête et pour former quelque chose de constructif. Et donc, on peut dire que j'ai une culture, et après, c'est presque une culture libertaire, on va dire, anarchiste. Non, libertaire, c'est pas anarchiste, je ne sais pas. En tout cas, je veux dire que dans le sens que c'est anarchique, et moi, en vérité, je croyais que l'anarchie, c'était vraiment le bordel. Mais, ça se forme, ça fait des trucs qui ne sont pas bordéliques. C'est bizarre.